Vous écoutez Radio Courtoisie, il est très précisément 2h du matin.
Radio Courtoisie, s'il n'en reste qu'une.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national sur 95,6 MHz à Paris, 100,6 à Caen, 104,5 à Chartres, 87,8 à Cherbourg, 101,1 au Havre et 98,8 au Mans. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 5 avril de 18h à 21h, en différé jeudi 6 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. Et n'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Nous adresserons 3 exemplaires de chaque publication aux adhérents qui auront décidé de cotiser pour une somme supérieure à la redevance de télévision. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours du libre journal de Serge de Bekech par téléphone au 46 51 00 85 ou par télécopieur au 46 51 21 82.
Bonsoir à tous. Bonsoir spécialement à Victoria, la zonarde. Si elle nous fait un zona, c'est ce qui est terrible. On rit, mais non, on rit pas d'ailleurs, parce que c'est vraiment quelque chose, paraît-il, de terrible. Et comme c'est psychosomatique, ça se guérit par le sourire. Donc il faut que Victoria sourie, il faut qu'on pense à elle. Voilà. Ce soir, nous recevons Martine Levideux. Bonsoir Martine.
Bonsoir.
Pour parler des 10 ans du Cercle National des Vins d'Europe, pour parler de la campagne présidentielle. Je crois que vous êtes un petit peu impliqué dedans.
Ah ben, totalement.
Voilà. Et puis pour parler de la campagne des municipales à Paris. Nous recevons également le professeur Lugan pour parler de son livre, qu'il est encore chaud d'ailleurs. Le livre, il vient de sortir des presses de Christian Bartilla, Il s'intitule « Afrique, de la colonisation philanthropique à la recolonisation humanitaire ». C'est un livre qui fait beaucoup de pages. Combien, professeur ?
Environ 400, 400 pas pages. Loin de 400 pages, oui.
400 pages, et qui est extrêmement léger parce qu'il n'est pas en bois. C'est pas un livre écrit dans la langue de bois, vous voyez. Je serais étonné qu'il ait le prix de l'UNESCO ou des choses comme ça. Ça me surprendrait beaucoup. Mais on va en parler. Et puis nous recevrons à la fin de l'émission Serge Martinez, qui est l'organisateur des menus plaisirs du roi. C'est joliment dit, hein.
Magnifique.
En fait, il est chargé des grandes et des petites manifestations.
Surtout des grandes,
non ? Surtout des grandes. De la caravane du Front National, du 1er mai, enfin, il s'occupe de tout, il va nous parler de ça, notamment de la prochaine, du meeting de clôture de la campagne, je crois qu'il se tiendra à Auteuil.
Oui, le 20 avril.
Le 20 avril, voilà.
Paris.
Et puis
à
également,
côté d'ici d'ailleurs.
Tout près d'ici, oui, sur la comment ça s'appelle ? C'est la pelouse où se tient la fête à Neuneu.
Voilà, oui, à côté de la porte d'Auteuil.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Juste à côté de la porte de
paix. Oui.
Donc on en parlera avec Serge tout à l'heure. Nous n'aurons pas Marc Dehm. Vous savez que Marc Dehm publie une lettre confidentielle d'information religieuse qui s'appelle Iota Unum. Il est notre invité toutes les semaines. Il ne le sera pas cette semaine. Je ne veux pas vous raconter d'histoire, c'est tout simplement parce que j'ai eu peur de manquer de temps, et comme je ne veux pas trop empiéter sur la demi-émission de Daniel Amiche et les Fous du Roi, j'ai demandé à Marc qui nous prépare une intervention un peu plus longue sur l'encyclique pour la semaine prochaine, si Dieu veut. Je dois également faire une annonce qui est quasiment officielle et que je ferai toutes les semaines parce que je me suis aperçu, vous allez me dire que j'ai mis du temps à m'en apercevoir, mais maintenant c'est clair, qu'il y a une confusion souvent faite entre le libre journal de Radio Courtoisie, c'est-à-dire le libre journal radiodiffusé, et le libre journal de la France Courtoise, c'est-à-dire le libre journal imprimé. Je dois dire d'ailleurs que quand j'avais annoncé à Jean Ferry que j'appellerais mon journal le libre journal, il avait tordu un peu le nez, parce qu'il se doutait bien que ça finirait comme ça. Moi, j'ai pas fait ça pour ça. J'ai fait ça par un souci d'unité. Mais donc, il y a une confusion. Alors, je précise qu'il existe deux choses qui sont totalement différentes. Une émission de radio que vous êtes en train d'écouter, qui s'appelle Le Libre Journal de Serge de Beketch, et un journal imprimé qui s'appelle Le Libre Journal de la France Courtoise, dont naturellement l'esprit est assez proche de l'esprit de l'émission, puisque je fais les deux, enfin je dirige les deux, donc forcément il y a un peu de ressemblance, mais ce sont deux choses différentes, et bien entendu, ce qui est imprimé dans le journal n'engage pas du tout Radio Courtoisie, en tant qu'association, de même que ce qui est dit dans cette émission, n'engage que moi, bien évidemment. Mais ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant. Et donc, si vous voulez voir à quel point le libre journal imprimé est différent du libre journal parlé, eh bien, vous pouvez demander un spécimen en envoyant votre carte de visite au 139 boulevard de boulevard de Magenta. 139 boulevard de Magenta. C'est de votre faute.
Voilà. Comme ça, je ne l'ai pas dit.
Merci, oui. Il m'a pris complètement à contre-pied.
Si, oui, un jour, j'expliquerai pourquoi c'est un excellent journal.
Oui.
Mais moi, je peux dire aussi que c'est un excellent journal et j'invite tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à le faire. C'est un moment tout à fait remarquable de lecture et que nous apprécions tous beaucoup.
C'est gentil. C'est quand même, je peux dire que je crois que c'est un des rares journaux, auquel la quasi-totalité des dirigeants du parti dont je ne citerai pas le nom, puisque c'est le Front National et que c'est très mal vu de citer le nom du Front National.
Ah, c'est de mieux en mieux vu.
Oui, c'est de mieux en mieux vu.
Au contraire.
La quasi-totalité des dirigeants sont abonnés, voire même actionnaires, voire même certains sont même actionnaires. C'est les plus intelligents. Les plus avisés financièrement sont les actionnaires. Ça leur a coûté moins cher qu'un abonnement.
Ce ne sont pas les actionnaires du Crédit Lyonnais, mais à quoi sont des gens heureux, satisfaits.
Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire également, mais on en parlera plus longtemps la semaine prochaine, qu'il faut parler de l'encyclique, qu'il faut lire l'encyclique, il faut pas en parler, il faut la lire. C'est un considérable événement, sur le plan religieux aussi, enfin d'abord, mais sur le plan politique également, parce que, vous savez, mon souci, jaloux de la démocratie et du respect des règles de la démocratie, or le pape a quand même dit, dans cette encyclique, que la démocratie menait au totalitarisme, ce qui est mon avis depuis longtemps, et je suis bien content de voir que Jean-Paul s'est quand même rallié finalement à mon opinion. Ça a été long, mais il a fini par comprendre. Maintenant, il reste aux évêques à faire la même chose. C'est assez mal parti quand on voit que Kofi, évêque de Marseille, s'est immédiatement précipité pour dire que il est pour le préservatif, bien entendu, lui, Kofi de Marseille, tout à fait pour le préservatif, car, dit-il, on ne peut pas obliger les gens à donner la mort. Ce qui montre que, apparemment, certains évêques ont des problèmes de communication avec le Saint-Esprit. Ils devraient s'adresser à France Télécom.
Oui, oui. Mais vous avez vu que c'était particulièrement choquant parce que depuis quelques jours, à la radio, sur toutes les radios, je dirais, on nous explique, en disant que c'est tout à fait remarquable, que 90% des jeunes entre 15 et 18 ans mettent le préservatif pour leur première relation sexuelle. Alors si c'est ainsi aujourd'hui dans ce pays qu'on parle de l'amour à la jeunesse et peut-être de ce don merveilleux ou ce moment merveilleux que peut-être en effet la première rencontre de l'amour, ça m'apparaît comme je crois qu'il tout faut à fait affreux.
Il faut quand même raison garder.
Les journalistes seulement. Oui,
il faut quand même raison garder. Je crois que tout ça est du bidon intégral. D'abord, ils n'en savent rien. Ensuite, moi, je vois autour de moi les amis de mes fils, et que ce soit des garçons ou des filles, c'est hors sujet tout ça. C'est complètement hors sujet. Alors, ça concerne quoi ? Ça concerne un petit noyau racailleux. Du genre de ce qu'on voit dans la rue ce soir.
Mireille Dumas et Fun Radio.
Oui, c'est ça. Tous ces gens-là. Bon, alors, on s'en fout, à vrai dire. Ils peuvent très bien s'entre-échanger toutes les cochonneries de la Terre. Moi, ça fait pas partie de mon univers. Je les nie. Ce sont des gens qui n'existent pas. Cela dit, j'ai quand même... je dois dire, je m'attendais pas à ça. J'ai vu... Vous avez remarqué que depuis quelques jours... Tous les présentateurs de télévision portent le gamma au revers. Ils portent un signe gamma rouge.
Absolument.
Alors, je pense que c'est pour protester contre le refus de mise en liberté de Touvier. Je vois pas d'autre explication. Pourquoi ils ont tous le signe de la milice au revers du veston ? Alors, j'ai essayé de comprendre. Et j'ai vu beaucoup de jeunes aussi dans le métro. C'est très étonnant, ce regain de passion fasciste.
Vous trouvez ça inquiétant ?
Je trouve ça étrange parce que c'est toute cette jeunesse qui porte le gamma au revers, moi je pensais qu'elle ne connaissait pas l'histoire de France, et apparemment elle la connaît un petit peu puisque ils sont tous à célébrer cette unité de police supplétive de l'État français qui s'appelait la milice, juste au moment où le gouvernement, enfin où la justice refuse la mise en liberté de Monsieur Paul Touvier. Je trouve, je sais pas si c'est de très bon goût. Moi en tout cas, je le porte pas le gamma.
Moi non plus.
Vous non plus.
Moi non plus.
Hein, voilà.
Non.
C'est ça.
Je porte la flamme du Front National et ça me suffit.
Oui, c'est déjà bien.
Haut et fort.
Je voudrais aussi saluer M. Alain Minck. Vous savez qu'Alain Minck est un formidable intellectuel, c'est un homme qui sait les choses. Et il a dit sur RTL une chose formidable. C'est vraiment la preuve. C'est ce que Jean Edernalier appelle la sous-culture journalistique. Et c'est surtout l'arrogance du mensonge bétonné. Le type ne sait pas, donc il dit n'importe quoi, mais comme c'est à la main qu'il dit, et que ça passe dans le poste, eh ben il y a beaucoup de gens qui croient que c'est vrai. Alors il a dit une chose formidable à propos de l'Europe. Il a dit, mais il y a une histoire de frontières, tout ça. Le passeport, c'est une invention du XXe siècle. Au XIXe siècle, on s'en passait très bien. Alors, je voudrais pas... me tourner vers l'historien, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'être professeur d'université pour savoir, il n'y a que Minck visiblement qui ignore que le passeport n'est pas une invention du 20e siècle. Et j'en ai un témoignage personnel amusant, parce que ça qui montre deux choses. Nous avons dans les papiers de famille gardé un document qui est le document par lequel un de nos aïeux a pu quitter sa Savoie natale pour venir à Paris, tout gamin, il devait avoir 12 ans, servir naturellement comme petit savoyard, pas à Drouot, mais chez les ramoneurs. Et sa maman lui avait cousu des pièces percées avec de la laine pour faire des boutons. Et donc sa tunique de voyage, tous les boutons étaient des pièces, et quand il avait besoin d'un peu d'argent, il coupait un bouton, ce qui fait qu'il était arrivé à Paris complètement dépenaillé. Mais il avait un document qui s'appelle un passeport d'indigent. Première chose. Ça se passait en 1855. Donc à l'époque, il y avait des passeports. Mais mieux que ça, ce document qui s'appelle un passeport d'indigent prescrivait à toutes les autorités préfectorales d'assurer le gîte et le couvert à cet indigent dans son trajet entre la Savoie et la ville de Paris où il allait chercher du travail. Autrement dit, à l'époque... Contrairement à tout ce qu'on nous bassine, tout ce qu'on nous raconte à longueur de journée, on n'avait pas besoin des restaurants du cœur, on n'avait pas besoin de l'abbé Pierre. Il y avait tout simplement ce gamin qui avait 12 ans, qui a traversé la France de part en part, sans un sou, sinon les boutons qu'il évitait de couper, et qui se présentait à la mairie des villages le soir quand il arrivait, avec son passeport d'indigent, et par ordre de l'empereur, puisque c'était tout à fait au début du Second Empire, par ordre de l'empereur, il était pour la nuit, il était nourri, hébergé pour la nuit, et le matin, on lui donnait un quignon de pain pour la route. Ça se passait il y a 150 ans.
Ah, ça prouve que monsieur Alaminck, c'est pas grand chose. Il fait l'intelligent, comme on disait chez moi.
Alors, monsieur Mac fait son malin.
Ce qui est scandaleux, c'est que monsieur Alaminck évacue, je dirais, d'un revers de main tous les dangers d'un non-contrôle aux frontières, d'une ouverture des frontières, de la mise en application des accords de Schengen, semblant ignorer ou espérant que les Français vont ignorer à quel point ça va nous amener immigration incontrôlée, pénétration dans notre pays d'un certain nombre de produits fabriqués dans le monde entier à des taux de production très faibles et qui mettent nos entreprises en concurrence déloyale, l'arrivée de la drogue, de l'insécurité, du terrorisme et d'un ensemble de méfaits aussi importants que cela. C'est scandaleux qu'un homme comme lui puisse dire quelque chose comme ça aux Français.
Alors vous savez qu'il y a à propos de l'importation des produits d'origine originaire des pays du tiers-monde, il y a un label qui vient d'être fabriqué par les Suisses, d'ailleurs, curieusement, et qui est un label qui prouve que, qui témoigne que l'objet en question a été fabriqué par des ouvriers payés à un taux normal. Et par des ouvriers d'un âge normal. C'est-à-dire que si vous faites travailler un gosse de 6 ans à 1 dollar par jour pour fabriquer des t-shirts à Hong Kong ou à Yifong ou je ne sais où, vous n'avez pas ce label. En revanche, si vous avez ce label, ça veut dire que ça a été fabriqué par des hommes adultes qui travaillent probablement pour 2 dollars par jour. Et naturellement, ça change tout pour nous. Évidemment, c'est des gens qui coûtent, au lieu de coûter 100 fois moins cher qu'un ouvrier français, ils coûtent 50 fois moins cher, et donc on est protégé. C'est bien clair.
C'est ce qu'on pourrait appeler être protégé, en effet.
Voilà, c'est ça. C'est un peu comme l'autre système de protection qui protège dans 80% des cas. Et si vous êtes dans les 20%, vous avez gagné.
Vous êtes mort.
Voilà. Vous savez qu'il y a un principe qui est proclamé, d'ailleurs officiellement, c'est que le vote juif n'existe pas. Ça a été affirmé de la façon la plus formelle par Tribune Juive dans son dernier numéro, qui a titré « Le vote juif n'existe pas ». Monsieur Balladur a d'ailleurs proclamé lui-même dans une interview que le vote juif n'existait pas. Mais ce qui est très amusant, c'est que dans le numéro de Tribune Juive, à la une duquel figure le titre « Le vote juif n'existe pas », à l'intérieur, il y a diverses démonstrations de cette réalité. Par exemple, il y a un texte qui nous dit qui est intitulé « Chirac béni par le rabbi », par le rabbi, hein, pas par le ravi, parce qu'il ne peut pas se bénir lui-même. On y explique que le Rav Petzner, ayant personnellement été chargé par le rabbi de Lubavitch de transmettre des bénédictions à Jacques Chirac, rappelle que celui-ci est béni généreusement par D, alors je ne sais pas qui est D, à poursuivre avec succès ses nombreuses responsabilités de sa haute position en excellente santé avec joie et satisfaction profonde. Et le Ravi Pessner, toujours dans le cadre de ce vote qui n'existe pas, appelle solennellement tous ses coreligionnaires à voter massivement dès le premier tour pour élire Jacques Chirac à la présidence de la République française.
Mais ça n'en fera pas un grand homme d'État.
Alors
hein,
non, ça changera rien, c'est pas ça qui lui fera avoir des chaussures propres, mais c'est surtout que c'est assez rigolo parce que dans le même temps, sans ça j'en parlerai pas, mais dans le même camp, dans le même numéro de Tribune Juive, Monsieur Lelouch, cinéaste misérable, dit,
on lui pose. C'est Lelouch le cinéaste ou le député?
Non, le cinéaste. Le député, on sait qu'il vote Chirac. D'accord. Mais Lelouch, le cinéaste, on savait pas. Alors on lui pose la question, pour qui avez-vous voté? Alors il dit, alors vous n'allez pas me faire rentrer dans la campagne, ça. Et il ajoute, cela dit, ceux qui ont joué la carte Chirac lorsqu'il était au plus bas ont eu du courage. La France a besoin de dirigeants courageux. Jacques Chirac, j'apprécie son dynamisme. Jacques Chirac, ça fait 13 lettres. Ça, c'est l'argument massu. Jacques Chirac, ça fait 13 lettres. Mon chiffre porte bonheur. Et ça vote, ça, madame.
Mais moi, mon chiffre porte bonheur, c'est le 5. Oui. Et Le Pen, c'est le 5.
Comme ça se trouve.
Et oui, c'est vrai, en plus.
Et alors, ce qui est très drôle, c'est que... Je dis bien que sans ça, j'en parlerai pas, mais le jour de la parution de Tribune Juive qui annonce que le vote juif qui n'existe pas va quand même voter massivement pour Chirac. Au Soudan, il y a eu le congrès des islamistes du monde entier. Et il y a un islamiste qui représente l'islamisme français qui est sorti et qui a dit, enfin français ou algérien, je ne sais pas trop, et qui est sorti, donc qui est venu au micro devant la salle où se déroulait le congrès, et qui a dit « Pardon, le meilleur candidat pour les élections françaises, c'est M. Chirac. »
Mais ils vont finir par lui faire du tort.
Donc, attendez, c'est pas fini.
Je m'inquiète.
C'est pas fini parce que dans le Figaro de ce matin, il y a un article de Jacques Fleury qui est fort bien fait, qui est intitulé « Des francs-maçons dans la campagne ». Dans leur majorité, ils semblent favorables à Jacques Chirac.
Oula.
Alors vous savez que c'est une les francs-maçons sont apolitiques. Hein, ils ne se prononcent pas sur le plan politique. Donc, dans leur majorité, les francs-maçons sont favorables à Jacques Chirac, nous dit Jacques Fleury. Donc, là, ça fait, on comprend pourquoi il a des bons sondages. Hein. Alors, on n'a pas encore fait de sondage auprès des rouquins, ou auprès des marchands de cacahuètes, ou on n'a pas fait. Mais peut-être que, aussi, l'amicale des marchands de cacahuètes...
Marchands de pommes, peut-être, non ?
Les marchands de pommes, voilà.
Marchands de pommes.
On ne sait pas.
Oh, c'est plutôt auprès des pommes, des pommes qu'on tire.
C'est ah oui, c'est plutôt des pommes. Ça, c'est Serge Martinez qui vient de parler et qui est arrivé entre-temps. J'étais stupéfait, parce qu'on m'envoie un papier, on me dit que, dans une émission télévisée, le chanteur anarcho-gauchiste Renaud a déclaré « Les Juifs sont un peuple cruel ». Non, pardon, pas le... Non, j'ai mal lu. Non, il y avait une faute d'impression. C'est les Japonais. Non, ça, on a le droit. Les Japonais sont un peuple cruel. L'autre, vous vous rendez compte, s'il avait dit ça, il restait pas deux minutes de plus à la télévision. Mais les Japonais, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut sur les Japonais. C'est pas du tout un problème. C'est Renaud qui dit ça. Les Japonais sont un peuple cruel. Je sais pas quand même si ça fait pas, si ça tombe pas sous le coup d'une loi.
Mais non, puisque les Japonais sont des fourmis.
Des fourmis, oui.
Et pas des êtres humains.
Est-ce que c'est un peuple cruel et dominateur?
C'était un des premiers ministres les plus intelligents que la France ait connus qui avait dit ça. Les Japonais sont des fourmis. La noble Madame Cresson.
Oui, c'est ça. Et alors, dans la même émission sur France 2, semble-t-il, je ne sais pas si c'est la même, il y a un jeune homme qui s'appelle Vincent Perrault, on me dit ça, qui anime une émission qui s'appelle Vincent à l'heure, parce que c'est rigolo. Et alors...
Et Chirac Lelouch. Vincent oui, à l'heure et Chirac Lelouch.
C'est ça. Ouais. Et alors, donc, ils ont consacré une émission à un ancien gangster, René Lacanne, gangster bien connu de l'époque des Tractions Avant. Les Tractions Avant, pas les Tractions Avant. Ça. En présence du comédien Richard Berry, l'animateur présentait complaisamment le palmarès sanglant du truand vedette. C'est même avec une certaine déférence que Vincent Perrault s'adressait à ce René Lacanne. Bah, après tout, il a payé. C'est un vieux monsieur. Mais au bout de quelques minutes, patatras, le ci-devant Lacanne, évoquant ses souvenirs avec nostalgie, cite les paroles d'un complice de l'époque. « Les flics sont payés pour mourir ». Et tout le monde se marre. C'est ça qui avait fait interdire...
Mais qui est tout le monde?
Le petit paquet de gens qui étaient dans l'émission.
Ah oui.
C'est ça qui avait fait interdire, suspendre une radio.
Oui.
Radio pendant une journée entière.
Fun Radio toujours.
Voilà. Non, je crois que c'était ça. Enfin, peu importe. C'est
je crois que c'était Fun Radio qui a dit ça.
Bonnet sale et sale bonnet. Et alors, l'auditeur de cette émission me dit... Alors, bon, tout le monde a ri, puis on est passé à autre chose. Et puis au bout de quelques minutes, le sieur Perrault... s'est rendu compte qu'il avait laissé passer quelque chose, il est revenu en disant « Bien sûr, nous ne voulons pas faire ici l'apologie de la violence et du crime. » Hypocrite en plus. C'est formidable. Moi, je trouve l'actualité vraiment intéressante. Par exemple, à Strasbourg. Oh, Strasbourg, c'est en Alsace, hein, on est bien d'accord.
Oui, je connais bien.
Oui. Alors, il y a des gens qui ont voulu pour célébrer la langue alsacienne. Ils ont voulu qu'on mette les plaqueturues en deux langues. Alsacien et les français. Mais que, vous savez, il y a une chose qui est difficile à dire, c'est que l'alsacien, ça ressemble quand même beaucoup à l'allemand. Et alors, du coup, il y a d'autres gens qui ont dit, bon, c'est scandaleux de faire des noms de rues en allemand comme quand on était occupé. Alors, d'où bagarre entre, faut-il mettre les noms en allemand, quand on était occupé, ou faut-il mettre les noms en alsacien, comme quand on est libre?
Oui, c'est quand même un des derniers départements, une des dernières provinces de France, où on entend beaucoup de gens qui parlent alsacien. Ça, c'était tout à fait exact.
Les alsaciens parlent alsacien, qui est une langue
alsacien dans les magasins, dans les rues. Quand on fait campagne électorale en Alsace, on va dans les cafés, les bistrots, les Wienstube, voilà. Et les gens parlent alsacien.
Mais alors, oui, mais c'est vrai que...
Quand parle français aussi, oui. Mais pas alsacien.
Mais quand on parle alsacien, c'est difficile de se tromper. Ça ressemble pas tellement à l'allemand. Mais quand on écrit en alsacien, ça ressemble beaucoup à l'allemand. Et c'est naturellement, c'est embêtant, parce que les Allemands, quand ils occupaient Strasbourg, ils avaient mis tous les noms de rue en allemand. Alors,
en alsacien.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, du coup? Ils ont trouvé un compromis. Seuls les noms de rue traditionnels, encore en usage dans le parler strasbourgeois, ont fait l'objet de cette innovation. Par exemple, Bugenstrasse, c'est la rue de la source, mais De Gaulle Strasse. Fermeten.
De Gaulle Strasse.
Donc on dit rue
pas
de Gaulle.
Sérieux, ça.
Voilà. Ça, mais ça, ça occupe beaucoup de gens. Et ça fait. Tiens, toujours à propos du Japon, il y a un article dans OVNI. Mais c'est pas le journal des soucoupes volantes, c'est un journal franco-japonais qui paraît à Paris. Et dans lequel il y a un article sur qui est intitulé « L'attentat de Tokyo, un défi aux capacités d'adaptation du Japon ». C'est un article signé Claude Leblanc. Vous allez voir pourquoi je ris, parce que c'est dans cet article on dit « Mais au-delà de ce crime atroce qui a été l'attentat du métro de Tokyo, le Japon doit se demander s'il n'est pas temps pour lui de réviser sa position en matière de sécurité intérieure. L'ouverture de l'archipel se traduit par la présence de plus en plus importante d'étrangers, favorisant notamment une recrudescence des délits. Mmh. Il n'y a qu'au Japon que ça existe.
Chez nous aussi.
Non, non, pas du tout. Chez nous, il n'y a aucun.
60% de crimes et délits en plus à Paris.
Ah oui, mais ça n'a rien à voir.
En moins de 10 ans.
Ça n'a rien à voir avec l'immigration.
Vous croyez ?
Ben, je vous le dis.
Il suffit de circuler dans Paris pour s'apercevoir que ça a un rapport étroit.
Non, non, madame.
Très étroit.
Ça n'a pas de rapport et je vais vous dire pourquoi ça n'a pas de rapport.
Monsieur, quand je serai maire de Paris, vous verrez que ça a un rapport.
D'accord, mais pour l'instant, comme vous n'êtes pas encore maire de Paris.
Je le serai.
Surtout comme vous n'êtes pas encore ministre de la Justice, vous êtes obligé d'admettre que ça n'a pas de rapport parce que notre amie Caroline Parmentier de présent a été lourdement condamnée pour avoir pensé que peut-être d'une certaine manière il pouvait y avoir comme un léger rapport. Donc maintenant on sait, par voie de justice, par voie de condamnation, en attendant l'appel, qu'il n'y a aucun rapport en France entre l'immigration et la délinquance. En revanche, au Japon, on peut se demander s'il n'est pas temps de réviser la position en matière de sécurité intérieure, puisque l'ouverture de l'archipel, nous dit OVNI, le journal franco-japonais de Paris, sous les signatures de Claude Leblanc, l'ouverture de l'archipel se traduit par la présence de plus en plus importante d'étrangers, favorisant notamment une recrudescence des délits. Au Japon, c'est prouvé. En France, non. C'est le contraire qui est.
C'est ce que je viens de dire, Serge, quand même de me poser une question, et vraiment, ces déclarations me traumatisent, car je crois donc qu'en France, on est victime d'injustices énormes, et que surtout, on persécute ces braves gens qui viennent chercher l'hospitalité chez nous. Puisque le Point, il y a à peu près 2 ans, publiait une statistique disant que dans les prisons de notre beau pays, la très très grande majorité des pensionnaires n'étaient pas forcément de citoyenneté française. Je crois qu'ils évaluaient à 75% les prisonniers non français dans les prisons. Alors, ou on les persécute, ou alors le Point a commis une grave erreur, mais la fois a priori, la justice n'a pas poursuivi le Point. Donc je crois qu'ils doivent être très injustement persécutés.
Oui, non, mais ça, tu rejoins ce que je dis depuis longtemps, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a un devoir de solidarité avec les peuples du tiers-monde, et notamment avec les pays exportateurs de migrants. Il faut leur faire savoir, il faut faire savoir en Algérie, notamment, que la France est un pays raciste, et qu'ils croient qu'ils vont trouver chez nous du travail, du logement, du bon air et de la rigolade, c'est pas vrai. Ils vont trouver un pays de brutes épaisses, de franchouillards avinés qui ne pensent qu'à tuer du nègre. Et donc, il faut qu'ils s'enfuient. Il ne faut pas du tout qu'ils croient. C'est terrible à dire.
D'abord, hein? Je ne crois pas du tout qu'on soit obligé de les informer de quoi que ce soit. Une chose est sûre. Nous sommes la France. Nous sommes en possibilité d'accepter ou de refuser ceux qui souhaitent venir chez nous. Mais il y a une chose qui est certaine. Nous devons immédiatement mettre en pratique la préférence nationale. Et la préférence nationale en toute matière, en matière de logement, de prestations sociales, familiales, de droit à l'embauche, du travail, en tout préférence nationale. Et à partir de là, par des caisses séparées aussi, en matière de santé, de remboursement des soins, ou toute autre chose, les immigrés viendraient dans ce pays, si nous le souhaitons, si nous le voulons bien, si nous leur accordons la possibilité de s'installer chez nous et de travailler, dans la mesure où il y a de la place et du travail. Et puis, dans un pays comme le nôtre, où il y a aujourd'hui pratiquement 6 millions de chômeurs, à l'évidence, si un immigré vient aujourd'hui dans notre pays, et je parle là des meilleurs, c'est-à-dire un immigré qui souhaiterait travailler, serait un homme respectueux de nos lois, de toutes les façons, il prendrait le travail d'un Français. Et dans un pays dans lequel nous souffrons tant du chômage, nos familles, nos jeunes, les personnes âgées, tous ceux que l'on met à la pré-retraite, quelquefois 50 et 55 ans, on ne peut plus admettre que les étrangers, les immigrés, entrent dans notre pays. Que ce soit de façon régulière ou pire encore, de façon irrégulière, et de continuer à leur donner les prestations sociales et familiales qui manquent tant à nos familles et à nos personnes âgées qui vivent dans un état de plus en plus important de misère.
Alors, et parce qu'on est humain et charitable, pour réparer cette injustice, je crois qu'il serait souhaitable d'accorder la préférence nationale aussi au niveau des prisons, c'est-à-dire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que, en France, il n'y ait enfin dans nos prisons que les Français qui le méritent et que les étrangers n'aient plus à y être.
Tout à fait.
Bien entendu.
Je suis tout à fait d'accord.
C'est la préférence nationale en tout.
Beaucoup d'appels d'auditeurs, bien sûr. Alors, un auditeur nous apporte une information à propos du gamma, de l'insigne de la milice dont je parlais tout à l'heure. Il nous dit, c'est les gens qui portent l'insigne de la milice, ils le portent à l'envers. Donc, dit-il, ce sont des invertis. Alors, je trouve, là, c'est une accusation très grave, parce que milicien, pas encore, mais un milicien inverti, c'est qu'il accumule, quand même. Ou compensation, je ne sais pas ce
qu'il faut dire.
Enfin, en tout cas, moi, je suis frappé par la présence de ce gamma milicien sur le revers de tant de gens. Je suis très étonné de voir cette mouvement de solidarité avec Touvier. Oui, à propos, justement, de ce genre de questions, et de ce que vous nous disiez tout à l'heure sur le sondage, ou prétendu sondage auprès de la jeunesse, une auditrice nous dit au lycée Chaptal, un distributeur de machin truc avait été installé. Au bout de quelques mois, il a dû être retiré, faute de consommation suffisante. Je crois que c'est évident.
Mais bien sûr,
je crois que la jeunesse n'est pas du tout... La vraie jeunesse. La jeunesse majoritairement n'est pas passionnée par...
C'est ce que les journalistes veulent nous faire croire. C'est tout. Mais
alors,
c'est pas la
voilà,
vérité.
C'est ça. Une auditrice nous rappelle qu'il y a une manifestation d'enseignement dimanche dernier et qu'elle a entendu. Enfin, elle nous dit, j'ai entendu un enseignant dire « Je porte un bonnet d'âne parce qu'on me prend pour un pigeon ». Joli, ça.
Mais vous avez entendu ce qu'ont dit les enseignants il n'y a pas très longtemps. On a entendu des enseignants qui se sont inquiétés terriblement de la recrudescence de la violence dans les établissements scolaires.
Ah, ben là, je peux en parler.
Et il y a eu récemment, d'ailleurs, encore un jeune... Alors, on ne sait pas qui est le jeune, évidemment, qui a poignardé un de ses copains, simplement parce qu'il n'était pas d'accord avec lui, et qu'il avait eu simplement draguer ou faire la cour à sa petite copine. Et le directeur d'établissement demandait si on allait être obligé, comme aux États-Unis, de mettre des portiques détecteurs d'armes à l'entrée de tous les établissements scolaires. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'une femme, l'autre jour, qui était enseignante, ait expliqué que tout ça était dramatique, qu'il fallait faire quelque chose, et qu'un certain respect pour les enseignants était sans aucun doute nécessaire. Oui, mais il faudrait que les enseignants se regardent aussi, et regardent la façon dont ils dirigent leurs élèves. Puisque pour être respecté, il faut être respectable. Il faut se présenter d'une autre façon. Il faut faire des cours d'éducation civique et de morale à ses élèves. Il faut, quand on arrive dans la classe, que les élèves vous respectent, se lèvent, vous parlent, vous appellent monsieur ou madame. Les enseignants de mai 68 se sont comportés de telle façon que les élèves se sont mis non seulement à ne plus les respecter, voire à les mépriser. Et ce n'est pas parce qu'on traite un enseignant comme un bon copain qu'on va devenir un bon élève et que l'enseignant va être en possibilité de se faire respecter et de transmettre une éducation et un enseignement digne de ce nom. Ils s'en aperçoivent aujourd'hui, c'est un peu tard. On arrivera sans doute à réformer tout cela, mais ce sera de plus en plus difficile, c'est évident.
Un auditeur nous fait remarquer une chose, il s'en indigne, il dit la méthadone tue et elle est remboursée par la sécurité sociale. Je voudrais dire que c'est pas la seule chose qui
l'avortement
tue et qui
aussi.
Remboursé. L'avortement aussi tue et est remboursé par la sécurité sociale.
Mais j'ai d'ailleurs vu qu'en matière d'avortement, de loi Veil, Chirac, Giscard, et concernant l'encyclique papale, les réflexions et les remarques des responsables politiques ont été tout à fait abominables. Et peut-être les électeurs devraient-ils lire tout cela et s'en renseigner avant de voter, notamment M. Balladur qui a dit la loi est la loi, il faut la respecter. Ça veut dire qu'il apprécie sans aucun doute les positions de la bonne Madame Veil.
Porter le gamma rouge, c'est du dernier convenu, nous dit un auditeur, mais ça peut aussi s'écrire en deux mots.
Ah.
C'est joli, je trouve. Quoi d'autre? Et ben voilà, enfin beaucoup d'appels. Serge Martinez, puisque tu es venu nous parler des grandes manifs et autre chose de ce genre, il y a un malentendu qu'il faut lever tout de suite. Un auditeur nous dit, pour la réunion du Front National, il est indiqué sur l'affiche pelouse de Saint-Cloud, et vous, vous nous dites pelouse d'Auteuil. Alors, quelle est la bonne réponse?
C'est dans le bois de Boulogne. C'est en fait à l'emplacement exact où se tient habituellement la fête à Neuneu, c'est-à-dire à côté de la porte d'Auteuil, mais à une distance suffisante pour que nous ayons jugé bon de mettre des navettes entre la station de métro porte d'Auteuil et la pelouse de Saint-Cloud qui est près de la porte d'Auteuil.
Voilà, ben comme ça on a... Alors c'est le 20 avril.
C'est le 20 avril.
Bon, on va revenir à tout ça après, enfin un peu plus avant dans l'émission. Martine, alors j'ai dit qu'on allait parler de trois sujets. On va aborder le premier, c'est les 10 ans du Cercle National des femmes d'Europe.
Oui.
C'est tout à fait étonnant. Moi, je croyais que ça avait...
Moi aussi, je croyais que ça avait 6 mois.
Voilà,
non, je ne sais pas.
Alors,
en deux mots... On ne peut pas grandir ses enfants, vous savez bien.
Voilà. En deux mots, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Cercle National des femmes d'Europe...
Je dirais que c'est une belle œuvre. C'est une belle réussite. Sans aucun doute pas assez importante pour moi, parce que je suis de ces femmes qui ne se satisfont jamais des résultats obtenus, mais néanmoins, c'est une association qui a grandi, qui a été fondée en 1985 et qui avait pour but essentiel de regrouper des femmes et des familles et de défendre principalement la politique familiale. Mais ce cercle a mené un certain nombre d'actions de lutte contre la drogue, de lutte contre la pornographie dans certaines villes, en faisant retirer des affiches par exemple et des messages pornographiques. Nous avons mené des actions concernant l'enseignement, puisque nous avons réussi quelquefois à intervenir dans des lycées, des collèges, notamment particulièrement quand il y avait eu une tournée d'Harlem Désir qui venait endoctriner les jeunes de nos établissements. Et puis nous avons réussi, je crois, ce qui est très important, à faire passer et à faire comprendre un certain nombre d'idées et à faire reprendre un certain nombre une certaine partie de notre programme, particulièrement le revenu parental, par exemple. Parce que quand on explique bien, quand on nous laisse le temps d'expliquer aux jeunes femmes qu'on va leur donner le revenu parental d'un minimum de 6000 francs, peut-être de 7000, puisque le Front National souhaite que le SMIC soit porté à 7000 francs et que nous voudrions le revenu parental égal au SMIC, sans condition de travail préalable, pendant la période qu'elle souhaiterait donner droit à la retraite, avec un recyclage permanent et peut-être en l'associant à un travail à mi-temps, une possibilité donc éducative importante et de présence maternelle ou paternelle auprès des parents, auprès des enfants, je crois que c'est une idée qui est passée dans l'esprit populaire et dans l'esprit familial, tout en sachant bien sûr que tous les dirigeants politiques de ce pays, y compris Philippe de Villiers, Édouard Balladur, Chirac et autres, qui reprennent ce thème de temps en temps, c'est-à-dire en période préélectorale, encore que M. Balladur se soit prononcé contre il n'y a pas très longtemps, eh bien c'est une idée très révolutionnaire, très intéressante, reconnue par beaucoup de gens maintenant et qui serait sans doute aussi une mesure en faveur de la natalité. Alors nous sommes fiers de l'action du Cercle National Femmes d'Europe, qui s'est étendue un peu dans toute la France, qui a également des ramifications dans un certain nombre de pays d'Europe. Et c'est vrai, nous allons fêter ces 10 ans à Lyon. Et il y a un petit événement lyonnais qui est un peu particulier. Jusqu'à maintenant, le Cercle National Femmes d'Europe ne s'était pas cru ni obligé ni tenu de faire un appel électoral, c'est-à-dire de se prononcer en faveur d'un candidat. Mais là, la situation est trop grave. 1,4 enfants par femme en France, c'est-à-dire un taux de natalité dramatique, un vieillissement important de ce pays, une dégradation des mœurs totales, une décadence terrible de notre pays, nous porte à examiner plus attentivement que jamais les programmes des candidats à la présidence de la République. Nous ne pouvons plus aujourd'hui envisager que 7 ans se poursuivent avec une politique socialiste ou une politique libérale. C'est la raison pour laquelle le CNFE va appeler par ma voix et auprès des journalistes et tous ceux qui voudront bien nous entendre à voter en faveur du candidat de la droite nationale, parce qu'il est le seul à défendre une politique familiale, à mettre en place, il l'a promis, un grand ministère de la famille, à s'intéresser aux familles, aux jeunes, aux enfants. Et c'est la raison pour laquelle, pour la première fois, nous appellerons solennellement et officiellement à voter pour lui.
Alors je signale que le numéro de présent qui est en vente en ce moment dans les kiosques et qui sera en vente encore demain matin, qui arrivera d'ailleurs dans les boîtes aux lettres demain matin pour les abonnés. Il y a un grand papier sur le contrat, le contrat que Le Pen propose, contrat
oui, pour français. La France,
qui est donc tout à fait détaillé sur les propositions. Et puis il y a également une grande interview de Martine, deux grandes pages, sur le 10e congrès des femmes d'Europe et sur les prises de position du Cercle national des femmes d'Europe à propos justement...
Vous comprenez bien que si Édouard Balladur ou Jacques Chirac avaient voulu instaurer le revenu parental en France, ça se saurait, ils ont été au pouvoir très longtemps.
Mais oui, c'est ça. Mais c'est plus possible, un auditeur, par exemple, là, nous dit l'autre jour... Monsieur, je ne sais plus où est le papier, je l'ai fait écarter. Je crois que c'est Monsieur Junot qui était invité à l'émission de Jean Ferré, a promis que si Chirac était élu, Radio Courtoisie pourrait s'étendre sur toute la France. Et il dit, mais quand j'entends Beketch, je crains que ça ne soit l'interdiction pure et simple.
Oui. Je dirais d'abord que... Ce sont des promesses, vaines promesses.
Je ne sais pas si c'est de vaines promesses, mais... Si on avait dû avoir l'autorisation de s'étendre sur toute la France, on l'aurait eu en 86, on l'aurait eu en 90, on l'aurait eu depuis longtemps, d'une part, et d'autre part, je trouve quand même cette conception de la démocratie assez curieuse. C'est-à-dire que si sur Radio Courtoisie, on ne dit pas que du bien de M. Chirac, Radio Courtoisie va être interdite. Autrement dit, depuis 7 ans, on n'a pas arrêté de cracher au visage des socialistes sans avoir d'interdiction, et à partir du moment où le gouvernement va changer de côté, on va être interdit. Moi, je crois pas du tout que M. Chirac soit capable de ça. Je pense que M. Chirac et M. Balladur sont des démocrates sourcilleux, et que c'est d'ailleurs pour ça que je voterai pas pour eux, vous voyez, et que ils vont nous préserver, bien entendu, du fait même qu'on ait des opposants, enfin que moi, en tout cas, je suis un opposant.
Mais on a le droit d'être un opposant.
C'est quand même...
Mais je veux dire, il y a une chose qu'a rappelé Jean-Marie Le Pen il n'y a pas longtemps, et c'est très très curieux d'ailleurs que les Français, qui sont quand même des gens assez critiques, n'y aient pas pensé. Quand dans une société, on rend compte à ses actionnaires, quand on a dirigé une société pendant longtemps, en général, on fait un rapport moral et un rapport financier. Et il faut que le rapport moral et le rapport financier soient bons. À partir de là, on demande quitus. Alors pourquoi les Français aujourd'hui ne demandent-ils pas quitus à monsieur, ne donnent-ils pas quitus à Chirac, à Balladur, à tous ceux qui ont gouverné ce pays pendant 40 ans?
Quitus, ça veut dire...
Alors, ben, non mais...
Ils sont dans l'incapacité de faire un rapport sur tout moral, voyons,
oui,
Martine.
Moral, pas du tout. Ça, j'allais le dire, tu as raison, d'ailleurs, c'est vrai.
Non, mais ne pourrait être qu'immoral, donc ça marche pas.
Mais oui, mais... Pourquoi les gens imaginent-ils de redonner le pouvoir ou de voter à nouveau pour des gens qui sont responsables de l'insécurité, de la recrudescence de la drogue, des problèmes européens, de l'ouverture des frontières et de la mise en pratique de Schengen, de l'aggravation du chômage, de l'insécurité permanente dans notre pays, de l'état de l'enseignement et de la progression, enfin de l'importance considérable aujourd'hui de jeunes qui n'arrivent pas à avoir des diplômes, qui ne peuvent pas avoir de travail. Comment imagine-t-il de revoter pour cela? C'est totalement impossible. Il faut donc leur demander un bilan de ce qu'ils ont fait, et à partir de ce bilan, voter ou non pour eux. Moi, c'est la raison pour laquelle je demande aux femmes d'Europe aujourd'hui et aux familles d'appeler à voter Jean-Marie Le Pen. C'est parce que le bilan antifamilial de ces gens-là éprouvés. Et pourquoi feraient-ils demain ce qu'ils n'ont pas fait hier? Jacques Chirac, interrogé l'autre jour par Anne Sinclair, n'a eu qu'une seule réponse. J'ai écouté pendant une heure. J'ai attendu quelque chose. J'ai espéré qu'il allait dire quelque chose. Enfin, ce mangeur de pommes et de tête de veau, qu'est-ce qu'il a dit? Il a simplement dit, oui, il faut faire une autre politique. Mais il a dit ça 10 fois. Mais il n'a jamais dit laquelle. Parce alors nous, on dit aussi qu'il faut faire une autre politique.
Il faut être honnête, il ne l'a pas dit, parce que probablement il n'en sait pas grand-chose.
Oui, mais alors on ne vient pas des émissions télévisées.
Non mais attendez, il ne faut pas confondre.
C'est l'autre logique en 80...
Vous savez que vous allez être battu, oui. Blanza. Je vais vous massacrer
parce
un jour.
Je parle de trop loin.
Voilà.
Mais je rappelle simplement que M. Mitterrand parlait de l'autre logique autrefois. Et l'autre logique, ça a convaincu beaucoup de personnes qui espéraient, qui ont basculé du côté de Mitterrand. Et l'autre logique, ils l'ont vu.
Mais nous ne voulons plus nous contenter d'espérer, nous voulons réaliser notre programme parce que nous savons qu'il est bon pour la France et pour les Français, et notamment pour les familles françaises. Espérer, c'est très agréable un certain temps, mais il y a un moment où il faut arrêter.
Vous voulez que je
vous fasse... espérer en cela, en tout
vous
cas.
Que je vous fasse rire un petit peu, hein.
Oui.
Mes promesses ont valeur de contrat. Qui a dit ça, à votre avis?
Mes promesses ont valeur
de contrat. Non, mais la phrase textuelle. Mes promesses ont valeur de contrat.
Ça serait pas ce quoi, non?
Non, c'est Mitterrand qui a dit ça.
Mitterrand.
Le 21 août 81. Alors, quelqu'un m'a envoyé un petit répertoire, enfin, un petit sottisier qui est formidable. Par exemple, Jacques Lang dit, la politique de notre gouvernement se résume en deux formules, ordre et dialogue. Nous avons rétabli l'ordre et le dialogue.
C'est Jacques Lang qui dit ça.
Oui, tout à fait. Oui. Filiou avait dit en 82, les journalistes doivent comprendre notre politique ou s'en aller. C'est des libéraux, ces gens-là.
Je crois surtout que ce sont eux qui doivent s'en aller.
Et Lang, en 87, donc 5 ans après la déclaration de Filiou, il a dit, les 5 années de liberté qu'ils ont respirées quand nous étions dans le cœur et la tête de beaucoup de journalistes. Monroy avait dit, nous ne devrons jamais envisager une troisième dévaluation. Et Fabius, en 82, il avait dit, et maintenant nous allons vous montrer comment un gouvernement de gauche défend sa monnaie.
Mais est-ce qu'ils ont dit aussi qu'ils nous ont volé notre argent, qu'ils ont détourné les fonds publics, qu'ils ont assassiné les Français, les hémophiles, les malades du sida par voie de contamination intraveineuse simplement pour l'argent? Est-ce qu'ils disent tout ça? Mais nous sommes là pour le dire et pour le faire savoir. Avant le 23 avril, en tout cas.
Je vois qu'il y a une différence fondamentale. Nous parlons à nos concitoyens, nos compatriotes. Nous essayons de leur tenir le langage de l'intelligence et de la raison. Eux, leur seul objectif, c'est, en regardant le nombre de le pourcentage important d'indécis, de s'adresser à ces indéciles pour essayer de les convaincre et donc les prendre.
Honnêtement, Jacques Chirac, l'autre jour, pendant une heure, je ne sais pas qui il a pu convaincre. C'est tout à fait surprenant.
Et Mitterrand en 81, qui croyez-vous qu'il a convaincu quand il a dit « À la fin de 82, il n'y aura plus un seul chômeur de 16 à 18 ans. » Mitterrand, en Auvergne, novembre 1981. C'est beau, vous savez, de relire tous ces textes comme ça. Et Monroy, quand on lui reprochait...
Je préfère lire Alexandre Dumas, honnêtement.
C'est un autre genre. Monroy, quand on lui reprochait les difficultés de la rentrée scolaire, il avait répondu « C'est pas de ma faute si les Français ont fait tant d'enfants il y a 20 ans. »
Mais c'est sûrement de sa faute s'ils n'en font plus tellement aujourd'hui.
C'est bien tout ça. Mitterrand avait dit, grâce au plan que j'ai développé, je serai en mesure de faire recruter sur les plans privés et publics 1 million, vous m'entendez, 1 million de jeunes dans l'année. Grâce aux 35 heures de travail hebdomadaire, nous créerons 950 000 emplois. Ça, c'était il y a 15 ans, enfin il y a 14 ans qu'il disait ça. Mmh. 14 ans plus tard, ils reviennent encore nous dire et nous expliquer, comme Jospin, qu'ils vont créer des emplois. Et Jospin a dit exactement le même chiffre l'autre soir à la télévision. Il a dit, avec 35 heures hebdomadaires, on crée 950 000 emplois.
Oui, mais il y a quand même quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. C'est que, bien sûr, il nous avait fait tout un tas de promesses il y a 15 ans. La situation de notre pays était peut-être moins dramatique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais la situation que l'on vit aujourd'hui, quand on va en province, quand on va dans un certain nombre de villes, de catégories moyennes, dans lesquelles on voit les entreprises fermées, mettre au chômage, mettre par là même un certain nombre de familles dans un état de misère. Quand on voit les campagnes désertifiées, les cultivateurs auxquels on demande de mettre leurs terres en jachère, de ne plus cultiver, de ne plus produire. Quand on voit tous ces jeunes gens et jeunes filles à qui on dit passez votre baccalauréat et puis allez dans les facultés, les universités et puis ensuite se retrouver chômeurs. Quand on refuse au contraire de remettre en valeur l'apprentissage. Quand on voit toutes ces entreprises accablées de charges qui n'arrivent plus à embaucher, à entreprendre. Quand on voit toutes ces mères de famille, ces pères de famille qui attendent des logements, cette insécurité permanente dans nos banlieues, dans nos villes, l'état de décadence dans lequel, et de misère dans lequel est notre pays, il n'est plus temps d'écouter ces gens-là. Ça devient totalement insupportable parce que les 15 ans de socialisme, les 14 ans de socialisme, mais aussi les années précédentes de libéralisme avancé, la cohabitation, Chirac, Giscard, Mitterrand, tout cela a mené le pays dans l'état de désespoir où il est. Et on ne peut plus continuer comme ça. 7 années de plus pourrait voir disparaître la nation française aussi par une politique européenne désastreuse, la mise en place de la monnaie unique, l'application de Schengen, la ratification des accords de Maastricht, sans demander aucune dérogation. Par exemple, le seul droit de veto qu'avait demandé Jean-Marie Le Pen au moment où les intérêts de la France seraient mis en jeu et où nous pourrions décider de procéder autrement.
Alors, je voulais vous poser une question à propos, enfin, qui va faire une charnière en quelque sorte entre ce 10e congrès des femmes d'Europe et la campagne présidentielle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les femmes en général, je dirais à l'intérieur du Front National, ne s'engagent pas suffisamment dans la campagne?
Moi, j'ai trouvé quand même, peut-être pas assez, c'est vrai, j'ai quand même trouvé au sein du Front National une progression importante, ne serait-ce, et ce n'est pas Serge Martinez qui me démentirait, au paquebot, enfin au siège du Front National, où là nous avons tous nos services, qui sont des services bien sûr salariés mais militants. Il y a quand même un grand nombre de femmes et de jeunes femmes qui y travaillent, donc c'est aussi une progression. Il y a dans les sans doute peut-être pas dans les assemblées, encore que nous ne soyons pas représentés nous dans un certain nombre d'assemblées, mais dans les conseils régionaux un peu plus de femmes, sans aucun doute qu'il y en avait autrefois. Et quand on va dans les réunions et dans les meetings du Front National, on voit beaucoup plus de jeunes femmes qu'on en voyait autrefois. Je ne sais pas, je ne peux pas dire aujourd'hui quelle sera la proportion de candidates sur les listes municipales. Il y en aura, il y en a sans aucun doute. Il y a maintenant au Front National des femmes secrétaires départementales, responsables de notre mouvement. Donc il y a sans aucun doute une progression. Et c'est bien naturel parce que le Front National aujourd'hui, ce qu'elle ne ressentait peut-être pas autrefois, les défend principalement. Et défend quoi? Défend leur vie, leur famille, les difficultés qu'elles rencontrent, et elles sont quelquefois plus attaquées que d'autres, parce que l'insécurité qui touche dans les banlieues, par exemple, les femmes, les personnes âgées, les jeunes femmes, leurs enfants et leurs familles les touchent très directement. Donc à partir de là, elles se tournent vers un mouvement politique qui est le Front National. Ça a peut-être été un peu plus long pour les autres mouvements politiques, mais on sent cette progression. Alors évidemment, je ne comprends pas les discours de Madame Voynet, de Madame Veil ou d'autres qui nous disent, ben voilà, on va imposer un quota, puis à partir de là, tout va s'arranger. Est-ce qu'elles imaginent les difficultés, quelquefois, des femmes, d'être députées, sénateurs, ministres ou autres, parce que elles ont leur vie familiale, leur vie d'éducatrice de leurs enfants, et c'est plus difficile, mais c'est tout. C'est cette raison, à mon avis, qui les empêche quelquefois de s'investir totalement dans la vie politique. Mais il y a une progression, sans aucun doute, très importante chez nous.
Comment se présentent à Paris les municipales?
Ben, je dirais qu'à Paris, tout se présente bien. La campagne présidentielle, comme dans l'ensemble de la France, a été et est encore très forte, très dynamique. Et je profite pour dire la fierté que je ressens, mais Serge qui est à mes côtés le sait bien puisqu'il a dirigé cette fédération précédemment à moi, la fierté que je ressens quand je vois militer les Parisiens et les gens du Front National qui sont extraordinaires, qui se donnent un mal fou en ce moment pour la campagne présidentielle parce qu'ils sont convaincus de la possibilité de la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Alors notre campagne se passe bien. Nous avons fait tout un tas d'actions à Paris, distribution de tracts, de cassettes, descente dans les rues, caravanes, etc. Et puis nous avons 20 listes municipales à Paris, qui sont déjà pratiquement, je dirais, faites en totalité dans un certain nombre d'arrondissements, en progression de se faire, ou presque faites dans d'autres, dirigées par des hommes et des femmes d'ailleurs. Moi-même, je suis candidate dans le 20e arrondissement. Et nous avons édité, les premiers, parce que on nous disait toujours que nous étions des gens critiques, mais c'est vrai que 18 ans de chiracisme, ça ne peut pas ne pas se critiquer, parce qu'on a vu la situation dans laquelle il a mis notre capitale, notre ville de Paris, et nous avons présenté très rapidement le programme du Front National pour Paris. C'est un petit livre qui a été édité il y a déjà 3 mois maintenant, et qui donne les propositions du Front National pour la gestion de la ville de Paris, puisque nous avons pour ambition de gérer la ville de Paris. Alors, par exemple, pour citer un cas, progression importante de la criminalité à Paris, progression de l'insécurité, progression de la du trafic de drogue, de la maladie de sida. Et puis on le voit pour tous ceux qui aiment et qui connaissent Paris, on voit bien les changements qui s'opèrent dans les quartiers. D'abord, il n'y a plus de vie de quartier. on a détruit ce qui en faisait le charme et l'harmonie, c'est-à-dire les centres. Les centres de quartier. Vous savez que chaque quartier de Paris était comme une sorte de village harmonieux avec des petits commerces, avec une possibilité d'y vivre bien. Et les responsables politiques découvrent, mais ils découvrent toujours trop tard aujourd'hui, qu'il y a une disparition importante. Je crois qu'il y a 22 000 petits commerces qui ont disparu en moins de 10 ans à Paris. Et il y a des rues dans lesquelles il n'y a plus ni boucher, ni charcutier, ni boulanger. Ce sont des rues totalement immigrées, je dirais à 80%, avec le marché aux voleurs d'un côté, le marché de la drogue de l'autre, et puis la sécurité permanente partout. Alors c'est la gestion chiracienne, ça n'est pas notre ambition, nous souhaitons redonner à Paris sa tranquillité, son charme. C'est une ville, nous voulons une ville sécurisée, une ville protégée, une ville bien gérée, parce que aussi les impôts y ont augmenté de façon importante. Et nous regrettons, mais c'est sans doute un retour en arrière qu'il faudra faire, que M. Chirac ait extrait les Parisiens de leur ville pour les envoyer vivre en petite et en moyenne couronne, voire même en province, pour construire des bureaux. Et si vous circulez dans Paris actuellement, vous voyez qu'il y a partout des pancartes avec bureaux à vendre ou bureaux à louer. Oui. Ça veut dire que la ville de Paris est devenue un centre, mais M. Chirac l'avait annoncé, un centre cosmopolite et un centre de bureaux d'entreprises, d'affaires et de ministères. Pendant ce temps-là, les Parisiens sont partis vivre ailleurs et ceux qui ont pu y rester sont dans des situations d'insécurité, de mal de vivre très importants. Et puis, il y a également une immigration de plus en plus importante. Et les HLM de la ville de Paris, à l'évidence, sont attribués aujourd'hui en priorité aux immigrés sur le seul critère du nombre de personnes composant la famille. Enfin, quand on dit la famille, c'est un homme et plusieurs femmes. Ou bien, et notamment les immeubles de la ville de Paris, distribués très généreusement à des journalistes ou à des hommes politiques ou à des gens du show business qui bénéficient quelquefois d'appartements de 80, 100 ou 200 mètres carrés sur les quais de la Seine par exemple pour des loyers qui vont de 500 à 800 francs pendant que les familles françaises vont vivre très loin dans des situations très difficiles. Il est donc temps que M. Chirac, qui serait, mais j'espère que ça ne se produira pas, un très mauvais président de la République, ne continue pas à être un mauvais maire, car c'est une légende, ce n'est pas un bon maire.
Ah, vous savez, Martine, que ma question, pas mon opinion sur le militantisme féminin vaut beaucoup d'appels. Alors, un auditeur me dit, vous trouvez que les femmes ne s'engagent pas assez au Front National? Non, je trouve rien, je pose une question.
Non, c'est vrai.
Et nous
pas
dit,
assez.
À Maison Lafitte, sur 35 noms, de la liste municipale, 23 sont des femmes.
Ah ben bravo, bravo à Maison Lafitte.
Et un responsable du Rhincy, responsable du Front Rhincy, nous dit, je constate que les femmes sont beaucoup plus courageuses pour s'inscrire sur les listes. Je crois que c'est vrai en réalité, quand
Mais
on regarde les listes, on a l'impression que très souvent c'est ce qui se passe.
Mais parce que peut-être maintenant, elles voient l'état de leur ville. Elles ont... Quel est le souhait finalement des femmes, des mères de famille, c'est de vivre dans des endroits agréables, protégés, sympathiques, d'avoir des commerces dans lesquels elles connaissent les gens, avec lesquels elles puissent parler, dialoguer, de mettre dans leurs enfants dans des écoles où il n'y ait pas 50 ou 60% d'immigrés et de violence, dans lesquels ils puissent apprendre sereinement, qu'ils puissent rentrer chez eux tranquillement. Et elles veulent décider de tout cela. Je crois qu'elles vont s'engager dans cette campagne municipale pour pouvoir décider de leur cadre de vie et de celui de leur famille. Il y a un engagement sans doute important cette fois-ci parce que la dégradation est très importante. Alors peut-être ont-elles attendu un peu plus longtemps que les hommes dont elles imaginaient que c'était la vocation ou le métier, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'elles sentent que c'est leur vocation et leur métier. Est-ce que les autres ont si mal fait? Elles pensent peut-être qu'elles le feront mieux. Et je les crois tout à fait capables de le faire bien. Accompagnées par les hommes, bien sûr. On ne va pas se mettre à faire de la politique laguillesque ou joannesque, c'est-à-dire de vouloir imposer des femmes là où elles n'auraient pas souhaité être.
De toute façon, le principe de la part, enfin des quotas est un principe totalement imbécile. C'est un principe dirigiste qui est dans le droit fil de la démocratie totalitaire, comme dit Jean-Paul II, encore qu'il ne parle pas de ça. Mais je crois vraiment que le type même de l'idée imbécile, c'était l'idée de Rocard aux européennes, qui consistait à dire, on va mettre une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme. Ce qui était de toute façon ridicule, puisque, étant donné qu'on ne connaissait pas le nombre d'élus, et pour cause, il y aurait eu forcément une injustice à l'arrivée.
Ben c'est-à-dire qu'il y aurait eu... Fallait-il encore qu'ils aient le nombre de femmes voulues qui souhaitaient s'investir.
Un chiffre pair. Et puis la tête de liste, c'est un homme ou une femme, ça ne peut pas être les deux. Encore que au Parti Socialiste, ça ne devrait pas être très difficile de trouver quelqu'un qui représente les deux sexes. Mais il faut reconnaître quand même que tous ces arguments sont des arguments d'une stupidité rare.
Oui, non, c'est tout à fait impossible. Alors, simplement une petite chose, parce que je sais pas si vous avez vu le papier qui est arrivé tout à l'heure où une personne parlait des violences qui ont lieu contre les gens, du front. Je crois que c'est important.
Alors, justement, on parlait du courage des femmes. En politique.
Femmes et des hommes.
Oui, mais les hommes, c'est la moindre des choses, je dirais. Tandis que les femmes, l'engagement.
Quel machisme.
Hein? Mais oui,
non, pas du tout. Je crois qu'il y a un côté tigresse chez la femme quand son
enfant. Un côté charmeur, vous pourriez dire aussi.
Non, je pas dans ce cas-là. Quand son enfant est mis en danger, la femme est capable d'un courage extraordinaire. Mais disons que la qualité principale qu'on attend d'une femme, c'est pas le courage physique. C'est pas le courage de l'engagement physique, c'est pas la qualité première qu'on en attend, je veux dire. Autant on attend d'un homme qui soit courageux, autant on n'attend pas d'une femme qu'elle prenne un battle dress et des rangers.
Ce n'est pas la seule voie qui démontre le courage. La femme a d'autres manières de démontrer son courage.
En revanche,
le courage est moral aussi.
En revanche, la femme est la première victime de la violence.
Attention, c'est pas parce que j'ai 1m62 qu'il faut croire que je n'ai pas de courage. La taille n'y fait rien.
En revanche, les femmes sont souvent les principales victimes de la violence.
Elles le sont.
Et de la violence en politique aussi.
Elles le sont.
Mais, alors justement, quelle est votre réaction devant le traitement médiatique qui est fait à cette violence politique? Je vois par exemple dans Présent d'aujourd'hui, il y a un article intitulé « La tentative d'assassinat contre Maurice Gros et sa famille ». C'est vrai qu'on a essayé de tuer cette famille en déposant un explosif de 500 grammes, ce qui n'est pas rien, dans le garage de la maison. Donc c'était quelque chose pour tuer, évidemment. Et alors, là, on attend encore. J'ai regardé les journaux de ce soir. J'ai pas vu la moindre ligne à la une, en tout cas, sur cette affaire, ce qui prouve que médiatiquement, on a parfaitement le droit de... La chasse aux nationalistes est ouverte 24 heures sur 24, 350 jours par an.
Non, moi, je veux dire, ça m'a beaucoup touchée, parce que Maurice Gros est un responsable du front, c'est un ami aussi. Et quand on s'attaque à une famille comme cela, qui sont des gens de bien, des gens d'honneur, des gens engagés dans le combat qu'ils ont choisi, car chacun a le droit, finalement, de choisir le mouvement politique qu'il souhaite et qu'il veut. Puis, il y a eu un certain nombre d'attaques, et Serge en parlerait peut-être tout à l'heure, puisqu'il a plus suivi, sans doute, que moi, cette caravane dirigée par des jeunes et qui parcourt le pays, et l'attaque dont on était victime, parce que c'était une attaque organisée, programmée, nos jeunes du FNJ, de la caravane du FNJ dirigée par Samuel Maréchal, était à l'évidence scandaleuse. Il y a des attaques en ce moment. Il y en a un peu partout, et je dois dire que ça m'inquiète un petit peu. Ceci étant, nous pouvons prendre un certain nombre de précautions et nous allons les uns et les autres. Et quand on va dans Paris, par exemple, distribuer des tracts, faire des collages d'affiches, nous prenons des précautions supplémentaires. C'est-à-dire que nous avons fait des distributions de tracts dans Paris, nous les faisons encore tous les samedis, tous les dimanches, et voire en semaine quand il y a des marchés ou des commerçants à visiter. J'y vais bien souvent avec mes militants et mes sympathisants, qui sont des gens d'un extrême courage, mais nous n'y allons pas deux ou trois. Nous nous déplaçons en groupe plus important, parce que nous savons que le nombre peut être aussi dissuasif, et nous faisons attention à ne pas répondre, par exemple, à quelque chose que j'ai remarqué et qui existe depuis environ un mois, un peu plus que d'habitude, c'est à la provocation verbale. Et la provocation verbale, à l'évidence, existe, et elle est faite pour, à un moment ou à un autre, faire se grouper autour de nous des gens qui, bien entendu, nous désigneraient comme les attaquants, ce que nous ne sommes pas. Et bien sûr, je comprends que l'insulte soit désagréable, qu'elle soit difficile à supporter. Moi-même, je n'ai pas toujours le calme nécessaire, ou du moins j'essaye de l'avoir, mais c'est pas toujours facile. Et je leur demande de respecter ces consignes, d'être tranquille, d'être pondéré, d'être calme, de continuer à faire ce travail remarquable qu'est la distribution de tracts dans les rues, parce que ça n'est pas facile d'aller à la rencontre des gens, de leur parler, d'être souriant. Parce que d'abord, nous sommes les meilleurs propagandistes de Jean-Marie Le Pen et de la droite nationale par la façon dont nous nous présentons les tracts que nous distribuons. Et ce calme, nous devons le garder jusqu'au premier et deuxième tour de l'élection. Et nous devons continuer ce travail qui est nécessaire et indispensable, puisque nous ne bénéficions pas, comme beaucoup de mouvements politiques, d'autant de passages médiatiques, de possibilités de nous exprimer. Mais à chaque fois qu'on attaque quelqu'un du Front National, cela nous fait de la peine, nous fait souffrir, nous indigne, parce que nous ressentons ça comme une attaque faite à notre propre famille. Et quand je vois que quelquefois on s'attaque à des gens âgés pour lesquels j'ai de l'affection, comme si c'était mes parents ou mes grands-parents, je me dis que c'est scandaleux. Et je méprise finalement ceux qui font cela. Je respecte tout militant politique, de quelque parti que ce soit, de quelque mouvement que ce soit, dans la mesure où il défend ses idées de façon digne et correcte.
Martine, une dernière question. Quel résultat au premier tour vous ferait, en dehors d'une élection directe au premier tour de Le Pen, ce qui est quand même pas peu probable, quel résultat vous ferait plaisir? Quel résultat considéreriez-vous?
La présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Je vous garantis que nous faisons tout pour cela. Tout. Et lui a tant fait aussi pour cela. Il s'est si bien battu, il défend des idées tellement exaltantes et tellement proches de ce que les Français devraient attendre, espérer, qu'ils attendent et espèrent d'ailleurs, pour un nombre de plus en plus important. La présence au deuxième tour serait pour nous, bien entendu, la récompense suprême et la possibilité, bien sûr, d'une élection. Et puis, je dois le dire aussi, je le dis autour de moi, et certains dans ma fédération trouvent quelquefois que je leur dis trop, je leur dis que moi, pour réussir, pour gagner, j'ai besoin d'y croire. Alors jusqu'au 23 avril, je croirai que c'est possible, et à partir du moment où je crois que c'est possible, je crois que c'est réalisable.
Merci Martine. Serge, alors on change pas de sujet. Cette grande fête, enfin ce grand meeting du 20 avril, on va en parler. On va parler également du 1er mai, parce qu'il faut pas oublier que cette année, comme
nous fêterons la réussite du vœu de Martine et le mien.
Alors, la caravane d'abord, est-ce qu'on peut en parler rapidement?
Oui, car Paris sera l'étape finale de cette caravane qui a commencé son parcours par Lille, en passant ensuite par Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille ce dimanche dernier, Lyon dimanche prochain, puis parce que c'est ensuite le week-end de Pâques, une petite pause, et Paris enfin. Elle a été, sur le plan de la fréquentation de ces meetings, elle a été sur la réussite et sur l'affluence un gros succès. Indéniablement, prenons un exemple, Marseille ce dimanche, je ne saurais dire combien de personnes il y avait, car le site lui-même était comble et par conséquent recueillait approximativement 6000 personnes. Mais c'était dans un cadre et avec une température, un climat tellement agréable que tout ce qui nous séparait de l'extérieur avait été ouvert et que par conséquent sur les collines avoisinantes et les champs autour il y avait aussi la foule. Donc je pense qu'on a dû dépasser les 8000 personnes, peut-être 10 000, c'est difficile de chiffrer. Des gens dans la nature. En tout état de cause, ça a été un triomphe. Et dans les autres villes également. L'apothéose, ce sera Paris, parce que c'est à quelques jours du premier tour, parce que c'est la capitale, c'est le centre d'une région importante et qui est la plus peuplée, mais elle ira assez loin, car spontanément, nous avons des demandes de fédérations qui souhaitent organiser des cars pour venir de départements très lointains. Je vois, dans la liste que j'ai arrêtée aujourd'hui, 20 cars pour l'instant, mais des départements comme le Loiret, comme le Cher, comme l'Indre, qui vont venir, et je le rappelle, cette fois-ci ce ne sera pas un dimanche, mais un jour de semaine, un jeudi soir, par conséquent, des gens qui travaillent et qui vont accomplir un aller-retour avec tous les kilomètres que cela représente pour venir assister à ce meeting. La taille du chapiteau est de 10 000 personnes. S'il fait très bon, on peut en ouvrir les côtés pour agrandir sa capacité. Pour commencer, à 20h, un spectacle qui, et c'est le vœu de Jean-Marie Le Pen, est pour l'instant une surprise, donc je n'en dis pas plus, sauf qu'il est dans la tradition de notre culture française et qu'il sera vraiment très attrayant. Et ensuite, à 21h, le discours de Jean-Marie Le Pen. Ce chapiteau est un chapiteau moderne, très beau, blanc, et qui nous permet d'avoir des effets de lumière, d'éclairage, qui le transforme totalement. Et c'est parfois un chapiteau totalement tricolore quand on allume certains éclairages. Il y a des effets de laser, etc.
On va encore dire Martinez et mégalomane.
Oui, comme la personne qui m'envoyait un petit mot tout à l'heure en disant que j'étais mégalo et que les BBR 94 étaient moins beaux que les précédents et qu'on craignait ma mégalomanie. J'y répondrai tout à l'heure à cette chère dame.
Ah, c'est une dame.
C'est une. Je crois que dans les dans le petit papier, il y a F. En général, ça doit vouloir dire dame ou femme. Bien. Donc, cette caravane s'est bien déroulée. Quant à ses résultats, elle a été très très dure à organiser. D'abord parce que elle mettait en place des moyens considérables. C'est sur des terrains nus que nous bâtissions ces chapiteaux, et donc c'est l'électricité qu'il faut créer avec des générateurs. C'est la structure du chapiteau. C'est la moindre table, la moindre chaise, le son, la lumière, tout est à faire. Et c'est 80 personnes en fait qui ont circulé, qui ont tourné tout au long de ce périple. Beaucoup de militants à l'intérieur, bien sûr des professionnels, parce que certains moyens techniques nécessitent le professionnalisme, et tous les ennuis que nous avons eus avec les différentes municipalités. Prenons le cas de Marseille, où ça a été, comme je le disais tout à l'heure, une grande réussite, mais pour réussir Marseille, il a fallu d'abord demander un espace à la municipalité de Marseille, et donc nous avions obtenu le parking du parc Chano. Et puis, finalement, quelques semaines après, on a découvert que ce parking, qui était initialement libre, était occupé, par le plus pur des hasards, le jour où nous tenions ce chapiteau.
C'est trop bête.
Nous avons ensuite obtenu une grande salle, le palais des congrès, donc malgré que le chapiteau, nous l'avions, nous le payions, nous l'avions transporté. Bon, on devait renoncer au chapiteau, puisqu'il n'y avait plus de terrain, et donc c'était le parc des... palais d'exposition. Et puis, suite à l'incident survenu à Marseille, M. Vigouroux a pris la décision d'interdire au Front National tout meeting dans sa commune, en salle ou en terrain. Donc il a fallu, comme les nomades que nous sommes dans ces cas-là, chercher autour. Nous avons réussi à trouver quelque chose, un terrain privé à Aix. Et là, ce sont les commissions de sécurité qui sont entrées en jeu et qui, d'abord, nous ont dit qu'elles n'avaient pas reçu en temps et en heure les dossiers, mais forcément. Puisque les dossiers avaient été d'abord préparés pour le parking du parc Chano, puis après pour le palais, pour la grande salle prévue, puis enfin pour ce terrain, elles avaient du mal à suivre les évolutions. Et j'ajoute qu'à cette époque également, et ça existe toujours, il y a grève du courrier. Enfin, nous avons vaincu cet obstacle. Et puis après avoir reçu ces dossiers, elles nous ont dit, mais ce terrain nous ne le connaissons pas, donc il faut procéder à une étude géologique du terrain. C'est quelque chose facile, comme vous l'imaginez. Voilà. Mais finalement, parce que nous avons la foi, nous réussissons et nous tenons nos meetings partout. Alors,
que le Front National est le seul parti au monde, peut-être, à qui on demande de faire une étude géologique des terrains sur lesquels il va tenir des meetings.
Et ça s'est passé, et finalement cette réussite a d'autant plus été appréciée que justement on nous avait mis des bâtons dans les roues et que nous sentions donc que nous avions remporté une double victoire, celle de faire un meeting spécial par sa réussite et par son ampleur, et spécial parce que nous leur faisions ainsi un grand pied de nez. Alors boum, au final, Paris, bien sûr, avec une mobilisation non seulement de toute la région parisienne, mais des départements environnants, dans un chapiteau. Je crois que tous ceux qui viendront, et je suis persuadé qu'ils seront nombreux, seront heureux de cette soirée, car tout a été préparé et rodé pendant toute la tournée pour en faire non seulement une rencontre amicale, une rencontre sympathique, de la distraction, mais bien sûr avec le dernier discours, le grand discours du président avant le premier tour, une soirée politique de premier ordre. Ce sera peut-être, bien entendu, la presse minorera le nombre d'assistants à ce meeting, mais ce sera, je pense, le plus grand meeting qui se sera tenu à Paris pendant cette campagne, et ce sera celui de Jean-Marie Le Pen. Alors j'invite à tous nos amis de la région parisienne et même plus loin, à venir nombreux assister à ce meeting.
Ok. Si je puis me permettre,
car j'ai toujours en travers de la gorge ce petit mot de cette charmante dame qui, au demeurant, dit m'aimait beaucoup, et qui dit que les BBR 94 étaient moins beaux que les précédents. parce que je suis peut-être un peu mégalomane. Alors je vais dire à cette dame, que Jean-Marie Le Pen, que je suis un militant bénévole et que je me bats autant que je peux pour faire le plus possible avec les petits moyens dont dispose le Front National, que j'ai été nommé, appelé par Jean-Marie Le Pen le 8 juillet 94 pour reprendre, alors qu'ils étaient déjà tout à fait lancés et avancés, les BBR, et notamment parce qu'ils risquaient de coûter trop cher. Le 8 juillet, pour tout Parisien qui connaît la vie de notre mégapole, sait que c'est à la veille des vacances, qu'au mois d'août en France on ne travaille plus, et que des BBR qui se tiennent la deuxième quinzaine de septembre, ça laisse à peine 3 semaines ouvrables pour organiser quelque chose qui est quand même assez important. En 3 semaines, nous avons tout modifié et le projet mégalomane, qui devait être certainement le grand décor, était déjà prêt, lancé, commandé par d'autres que moi. Le résultat des BBR est que finalement, sur le plan de la fréquentation, ça a été, je crois, une réussite, en tout cas on me l'a dit, et qu'enfin, sur le plan financier, ils ont coûté 600 000 francs de moins que ce qui était prévu avant qu'on ne me confie le dossier. Donc ma mégalomanie a permis d'économiser 600 000 francs.
Alors, et lui, comme il réagit. Hein.
Et le décor mégalomane, je l'avais déjà dans les dents quand j'étais choisi.
C'était des bonnes BBR.
Mais il ajoute même, et ça, j'ai un double plaisir à lire la deuxième phrase, parce que Serge, nous étions solidaires, et cette dame me dit, je lui rappelle qu'il a coulé minute avec sa folie des grandeurs. Alors comme tu étais mon associé, mon ami, mon bras droit...
J'espère que je suis toujours ton ami.
Oui, mais et mon complice dans cette opération, je vais me permettre de dire à cette dame que pour couler un bateau, il faut que ce bateau flotte,
oui,
d'abord. Et quand j'ai pris minute, il était au tribunal de commerce, en dépôt de bilan, cessation d'activité, ouais, etc.
C'était et donc, a fait exactement le contraire de le couler, tu l'as renfloué, remis à flot, et une fois qu'il a été mis à flot, tu t'en es écarté pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce que peut laisser supposer le propos de cette auditrice, mais pour des raisons qui sont des raisons personnelles. Et le journal, quand il a été, quand on l'a quitté, l'un comme l'autre, c'était pas le paquebot France d'avant la vente
d'avant,
norvégien.
D'avant, attention.
Mais c'était pas non plus c'était la Marie-Joseph qui est un bon bateau, quoi. Voilà. Non, je peux témoigner que Serge Martinez n'a pas coulé minute. C'est plutôt minute qui a fait couler Serge Martinez.
Oh non, heureusement.
Il est à flot, là.
Ça marche.
Oui, beaucoup d'appels pour dire que Jeannie Le Pen a été magnifique sur France 2.
C'est vrai.
À 13h. Et il paraît qu'elle a été effectivement magnifique. Mais ça, moi, j'en doute pas une seule seconde, parce que sa première intervention devant un micro, elle l'a faite au micro de cette émission.
Ah oui. Mais vous avez vu l'émission
Non, j'ai pas pu la voir.
C'était mais très belle.
La première
émission.
Fois qu'elle a parlé dans un micro, elle m'a dit que c'était la première fois, je sais que c'est vrai, c'était à cette émission. Et j'avais senti que le côté toute tremblante, toute timide, toute affolée, etc., allait disparaître très vite, et qu'elle avait, comme elle a quelque chose à dire,
si elle a parlé avec sincérité, avec passion, avec amour pour son mari, pour son pays, et je crois que tous les gens qui l'ont regardé ont ressenti cela. Tout ce qu'on demande finalement à une femme qui parle des choses de la vie.
Beaucoup d'auditeurs demandent des informations sur l'affaire de Marseille. Alors, toutes les semaines, on me demande de parler de l'affaire de Marseille. Je dis tout simplement que je n'ai pas d'informations pour la raison suivante. Je n'ai pas de moyens d'investigation. Je n'ai pas de relations privilégiées avec la police ou la justice marseillaise. Et je n'espère pas trouver des informations en lisant la presse quotidienne sur cette affaire. Donc, je ne peux pas donner d'informations que je n'ai pas. Jean-Marie Le Pen a dit que très certainement, avant longtemps, on aurait des informations assez étonnantes sur cette affaire, et qui en tout cas ne recoupe pas du tout les différentes prises de position ou les différentes affirmations qui ont pu être faites dans la presse depuis le début. Je vous rappelle qu'il y a eu un tissu de mensonges. On a dit par exemple que les couleurs d'affiches étaient des repris de justice. C'était un mensonge pur et simple, une invention totale. On a dit qu'ils avaient tiré à tir tendu. Il semblerait, c'est une des choses qui pourrait être confirmée très prochainement, qu'il s'agisse d'une blessure mortelle reçue par ricochet, ce qui laisserait entendre qu'on n'a pas tiré en direction des gens, mais bel et bien comme l'avait dit d'une façon bizarre Bruno Maigret, il avait dit ils ont tiré en l'air en direction des agresseurs, ce qu'on ne comprenait pas, mais effectivement, si on tire en l'air et que à proximité il y a un mur assez élevé, la balle peut ricocher. Voilà des choses qui peuvent. Mais je n'ai pas d'informations, donc je ne peux pas en donner.
Mais je crois que Jean-Marie Le Pen attend d'avoir des informations précises avant de dire quoi que ce soit. Il n'est pas comme les autres, il ne parle pas sans savoir. Alors dès qu'il aura les informations les précises, il informera les Français.
Et puis un auditeur dit, je pose plusieurs fois par semaine la question suivante. Que pensez-vous du pacte passé entre M. Chirac et les Bnaï Brith? Je l'ai posé également plusieurs fois aujourd'hui. Vous parlez de courage, dites-moi au moins pourquoi personne ne veut en parler. Bon écoutez, là, sur ce plan-là, je ne crois pas avoir de leçon de courage à recevoir. J'ai invité Emmanuel Ratier, qui a publié un livre, pas une opinion, un livre sur cette question. Ce livre s'appelle « Les Bnaï Brith ». Il est paru chez Ratier. Si vous voulez le commander pour vous informer de cette affaire, vous pouvez vous adresser au Libre Journal et vous pourrez commander ce livre. Je voudrais simplement dire qu'il ne s'agit pas d'une rumeur, comme certains le disent. Il ne s'agit pas d'un pacte entre Chirac et les Bnaï Brith. C'est pas ça du tout. Il s'agit d'un accord qui a été passé en 86 entre les partis de la majorité de l'époque, c'est-à-dire RPR-UDF, et les Bnaï Brith, pour interdire tout accord avec le Front National. Tout accord, un accord par lequel les partis de la majorité de l'époque s'interdisaient tout accord avec le Front National. C'est pas une invention du Front National, ça a été publié sous la forme d'un communiqué des Bnaï Brith par Le Monde. Je crois que c'est du 26 juin 86, mais je suis pas sûr de la date, de mémoire. Ça a été, donc, les Bnaï Brith, l'organisation des Bnaï Brith a publié un communiqué officiel dans Le Monde disant que, entre les deux tours des élections, il rappelait, cet organisme, cette association, rappelait aux partis de la majorité l'accord qui avait été passé interdisant toute relation avec le Front National.
Mais, voilà. Est-ce que c'est aussi simple Sarkozy que ça. Alors, et M. Barouin n'ont pas dit la même chose il y a quelques jours en disant l'un représentant Balladur et l'autre Chirac, il n'y aura pas d'accord avec le Front National.
Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est que ça n'a rien à voir cette affaire, contrairement à ce qu'on essaye de prétendre, avec le fait que les Bnaï Brith sont une organisation israélite. Ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Les Bnaï Brith sont une organisation supranationale. C'est une franc-maçonnerie internationale. Et ce que nous disons, nous, c'est qu'il y a eu, de la part de partis, de la part d'hommes politiques et de partis français, une subordination à un organisme international, multinational, supranational, franc-maçon, un engagement formel de ne pas faire quelque chose ou de faire quelque chose dans le cadre de la politique française. Et que ce soit avec des juifs, avec des musulmans, avec des adorateurs de l'oignon, avec tout ce qu'on veut au monde, n'a rien à voir avec ça. Le scandale, il est dans le fait qu'un homme politique français accepte d'aliéner sa liberté d'action à l'intérieur du pays aux volontés d'une organisation supranationale. Voilà. Voilà, il faut être bien clair sur cette affaire des Bnaï Brith. Mais il n'y a pas de rumeur, c'est pas vrai, il ne s'agit pas d'une rumeur, il s'agit d'un fait absolument historiquement avéré, reconnu par les responsables de cette association, et proclamé hautement par les responsables de cette association, sous la forme d'un communiqué, dans le parangon de la presse honnête en France, qui est Le Monde. Alors on ne peut pas dire mieux. Voilà. Je donne tout de suite la parole au docteur Dorn, qui vient de nous rejoindre. Je précise que Bernard Lugan a été obligé de partir pour une raison personnelle et reviendra la semaine prochaine. Il m'a laissé un petit mot en disant je suis obligé de partir, je reviendrai la semaine prochaine. J'espère qu'il n'y a rien de grave et d'ennuyeux dans le fait qu'il nous a abandonnés. Mais avant de donner la parole au docteur Dorn, je voudrais lire un témoignage d'une auditrice qui nous dit « J'ai 56 ans. Je suis... J'ai 56 ans. J'étais cadre. » Aujourd'hui, et je suis en chômage, aujourd'hui, l'ANPE m'envoie une autorisation de ne plus avoir à faire de recherche d'emploi en raison de mon âge. Et en même temps, elle me propose un stage dans une entreprise, stage de 6 mois. Donc, j'aurai près de 57 ans à la fin de ce stage. Pour cela, alors que comme cadre, j'étais payé 17 000 francs par mois plus les primes, on me propose une rémunération de 4 000 francs par mois. Ce qui signifie, premièrement, qu'il y a des possibilités d'embaucher, mais que l'employeur ne veut verser que des salaires en usage dans les pays du tiers-monde, alors que lui-même sera totalement défrayé des salaires et touchera des primes de l'État, et deuxièmement, que l'on peut faire baisser le nombre des chômeurs sans aucune possibilité d'embauche. Voilà un témoignage qui me paraît très 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 important. Un mot, Serge, si tu veux, mais
oui,
vite parce
très,
que
très très vite, car j'étais venu aussi j'étais venu aussi pour parler du 1er mai, car nous devons préparer déjà le 1er mai, à moins que
alors non, vienne, je te propose de revenir, mais dis-nous tout de suite rapidement
tout simplement
ce qu'on peut
faire. Pour inviter tous nos amis parisiens et de la France à se mobiliser déjà pour ce 1er mai qui aura un caractère exceptionnel car il se situera entre les deux tours et comme vraisemblablement Jean-Marie Le Pen sera là au deuxième tour, nous nous battons pour ça. Et j'ai obtenu de la préfecture de police un parcours exceptionnel d'une beauté, je crois, qui va nous changer de notre circuit habituel puisque nous traverserons la Seine par le pont du Carrousel, puisque nous traverserons le Louvre, puisque bien entendu nous honorons Jeanne d'Arc en déposant une dégère devant la statue de Jeanne d'Arc comme habituellement, mais nous remonterons l'avenue de l'Opéra et Jean-Marie Le Pen parlera avec pour décor l'Opéra de Paris puisque nous avons obtenu la place de l'Opéra. Donc très très beau défilé, très beau parcours et nécessité de se mobiliser dès à présent pour que ce parcours soit rempli afin de fêter dignement le succès du premier tour qui viendra de se terminer.
Merci, merci Serge. Alors, docteur Dor, vous m'avez fait savoir que vous pouviez venir nous voir rapidement ce soir pour faire un petit point de votre action. Je rappelle que vous êtes un des chefs de file des sauveteurs, c'est-à-dire de ces courageux militants de la vie qui se rendent sur les abortoirs, dans les abortoirs, simplement pour témoigner. Sans violence ni obstruction, mais simplement pour prier sur les lieux d'avortement et témoigner du refus de certains Français de ce crime, de ce génocide qui se perpétue. Où en êtes-vous? Quelle est la situation aujourd'hui, en quelques mots?
La situation actuellement n'est pas mauvaise, de notre point de vue n'est pas mauvaise. D'abord, les sauvetages ont fait du bruit, certainement, et là je trouve qu'il faut rendre hommage à la trêve de Dieu qui a pu mettre, alors que nous ne sommes pas arrivés, je dois dire, qui a pu mettre en avant enfin des personnalités remarquables, ecclésiastiques, remarquables à tout point de vue. Donc ça a été évidemment un très grand bénéfice pour tout le monde. Ça, il faut les remercier de ça. Et puis, il y a eu l'encyclique du pape, qui est donc toute récente, et vraiment, bien sûr, il n'est pas toujours facile de... Enfin, on ne doit pas tirer la couverture à soi, mais c'est vrai qu'il nous a encouragés. Et, monsieur le Becker, je voulais vous dire, un jour, je crois, vous étiez peut-être un peu sceptique, et on peut l'être, après tout, vous disiez, mais vous vous présentez devant les médias, après tout, quel bénéfice, puisque souvent, on vous présente dans les postures un peu ridicules, et c'est vrai, et puis... On vous coupe, on vous interviewe, on coupe où on veut, on vous présente donc dans...
Ah oui, c'était pas du tout sur le fond de l'action que je disais.
Non.
C'était sur la médiatisation. Moi,
oui,
je crois qu'on
n'a
rien
à
gagner à jouer avec les médias qui sont des canailles.
Oui, mais je vais vous dire. Oui, alors là, je ne serais pas tout à fait de votre avis. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai distribué des tracts qui n'ont rien à voir avec la lutte contre l'avortement. Et une personne, une concierge, m'a fait un sourire. Elle m'a dit, mais je vous connais, ça. Je vous ai vu à la télévision. Et alors, et c'est pas la première fois, plusieurs fois, enfin. Et alors, je me suis dit, mon Dieu, la télévision, après tout, les gens des chiffres, ils lisent entre les lignes. Et je crois que finalement, se faire connaître, même de façon...
Docteur, je vous demande une seconde.
Oui.
Il faut qu'on procède à la partie technique du retournement de bande. Je vous redonne la parole tout de suite.
Oui, entendu.